franceinter.fr.
Bonjour Najat Vallaud-Belkacem.
Bonjour.
EMC, enseignement moral et civique, les élèves de primaire qui rentrent demain en auront une heure par semaine, ceux de secondaire une heure tous les 15 jours. Beaucoup de profs s'interrogent, les parents aussi, parce que le programme n'a été publié qu'en juin. Il n'y a pas de manuel, il n'y en aura pas avant 2016. Ce nouveau cours de morale, ça devrait, à vos yeux, ressembler à quoi ?
Bon, d'abord, c'est pas une découverte pour les enseignants qui vont commencer en effet à le pratiquer à partir de cette rentrée scolaire. Je vous rappelle que le contenu même du programme d'enseignement moral et civique avait fait l'objet d'une consultation de tous les enseignants, du primaire comme du collège d'ailleurs, au printemps dernier. Je vous rappelle aussi que nous avons engagé au mois de mai dernier une formation spécifique pour 1000 formateurs aux questions de laïcité, d'enseignement moral et civique. Ces 1000 formateurs sont donc des professionnels aguerris qui désormais sillonnent les académies pour aller au contact des enseignants.
Et qui vont sillonner, et donc les profs pour l'essentiel ou les instituteurs ne sont pas encore formés à cela.
Oui, enfin, ce qu'il faut
ils n'ont pas vraiment le mode d'emploi heures de cours, hein, ils le disent.
Je comprends, c'est une nouveauté, comme toute nouveauté, évidemment, il faut s'y adapter et forcément, ça change les habitudes.
Bon, donc,
mais ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que, juste une chose, il y a beaucoup d'enseignants, je pense y compris à des professeurs des écoles, qui, avant même que nous introduisions cet enseignement moral et civique, prenaient un temps avec leur classe pour faire des cours de morale d'une façon ou d'une autre. Alors, finalement, ça va ne pas particulièrement changer leurs habitudes à eux. Ça montre que les enseignants sont capables de le faire. Et à quoi ça va ressembler ? D'abord, c'est adapté aux âges. L'idée, c'est que sur l'ensemble d'une scolarité, vous ayez de façon progressive une citoyenneté qui s'acquiert pour les élèves, un esprit critique qui s'aiguise. Alors évidemment, on le fera pas de la même façon en classe de CP ou en classe de 3e. On va le faire avec du débat au sein de la classe, avec du jeu de rôle, avec des mises en situation qui amènent les élèves à réfléchir, à s'interroger, avec un certain nombre, par exemple, de dilemmes moraux que l'on leur pose pour les inciter à entrer dans une posture de contradiction, mais verbale, intellectuelle,
mise
et non
en situation
pas physique.
Aussi, hors de l'école, au tribunal, j'ai vu que vous
absolument
donniez cet exemple,
c'est ou le deuxième point
dans
sur
la vie associative.
Je voulais insister, c'est que les enseignants ne sont pas seuls pour mener à bien ces heures d'enseignement moral et civique, on les incite fortement à s'appuyer sur tous les acteurs extérieurs qui peuvent venir alimenter les élèves et leurs réflexions, et en particulier les réservistes citoyens, puisque nous avons créé ce dispositif, la réserve citoyenne. Je rappelle qu'il y a près de 5000 Français qui ont accepté de s'y engager, qui sont des adultes de bonne volonté qui souhaitent aller dans les classes pour transmettre les valeurs de la République, pour aider les élèves à réfléchir sur tel ou tel sujet. C'est le moment ou jamais pour les enseignants de les inviter dans leur classe ou d'emmener leur classe, en effet, dans un tribunal pour assister à un procès, pour comprendre comment fonctionne la règle, le droit, parce que l'objet, pour finir par là, de cet enseignement moral et civique, au fond, c'est d'apprendre la vie en commun, tout simplement. Donc on l'apprend à la fois en connaissant les règles, mais on l'apprend aussi en se confrontant aux autres et au vivre ensemble.
Ouais, lourde tâche, hein, quand même, pour les enseignants.
Oui, c'est ambitieux, mais honnêtement, vous vous souvenez de ce qu'on s'est tous dit au lendemain des attentats de janvier dernier, et de la nécessité pour notre école de ne pas se contenter de transmettre des savoir, mais aussi un savoir-être aux élèves et notamment un savoir-vivre ensemble, et bien c'est l'occasion ou jamais avec cet enseignement.
On va revenir tout à l'heure avec des auditeurs, des enseignants qui appellent sur ce sujet. Juste un point, au collège et lycée, qui va assumer cet enseignement ? Parce que jusqu'ici, c'était les profs d'histoire-géo qui assuraient l'éducation civique.
Pour l'essentiel, ce sera des professeurs d'histoire géo, en effet, parce qu'on voit bien dans leur formation et puis dans le contenu de leurs cours que c'est ceux qui paraissent être les mieux placés pour le faire, mais pas exclusivement, j'insiste en effet là-dessus. Parce que l'idée, par exemple, dans cet enseignement moral et civique, vous aurez une large part donnée à l'éducation aux médias, à l'information, pour apprendre aux élèves à décrypter l'information, les images, à se méfier de la désinformation. Dans ce cadre-là, vous pouvez très bien imaginer qu'un autre professeur ou qu'un documentaliste, tout simplement, puisse venir apprendre des choses aux élèves. Donc c'est assez souple et c'est aux établissements de l'organiser.
La grande affaire encore dans votre secteur, c'est la réforme du collège et des programmes qui doit normalement entrer en vigueur l'an prochain. C'est d'abord, c'est la dernière rentrée des profs de latin.
Non, de grâce, pas sur France Inter. On va essayer.
Et pourquoi pas sur France Inter?
Oui, parce que je crois que vous avez quand même le goût de la précision et de l'exactitude. Donc on va essayer en cette rentrée scolaire d'éviter tout ce qui ressemble à des contre-vérités. Alors je le redis ici, le latin et le grec ne disparaissent pas avec la réforme du collège. Bien au contraire, ils sortent, le latin et le grec, ils sortent de la case option qu'ils occupaient jusqu'à présent. Une option étant forcément réservée à un nombre limité d'élèves, pour intégrer une case enseignement à part entière, qui s'appelle langue et culture de l'Antiquité, et qui, lorsqu'elle sera offerte à un établissement, eh bien, le sera à tous les élèves, donc concernera davantage de monde.
Il y aura encore
donc le latin et le grec. Et les professeurs de latin, d'ailleurs, voyez, ne serait-ce que le nombre de recrutements que l'on fait de professeurs de langue ancienne, de lettres classiques, pardon, eh bien, vous verrez que c'est en augmentation par rapport à l'année dernière et par rapport, bien sûr, aux dernières années.
C'est une réforme, en tout cas, Najat Vallaud-Belkacem, qui mobilise toujours une bonne partie des syndicats enseignants. Il y aura sans doute une nouvelle grève dès le mois de septembre. Vous allez faire la réforme contre les personnels?
Je ne le souhaite pas, et d'ailleurs je ne crois pas qu'on puisse faire une réforme contre les personnels. Je pense au contraire que cette année 2015-2016 est une année essentielle pour continuer un travail de conviction, un travail d'accompagnement, un travail de formation indispensable pour faire en sorte que tout le monde, parmi les personnels des collèges, comprenne ce qu'on attend d'eux avec cette réforme du collège. Et dès lors qu'on explique, chacun adhère à l'idée que les résultats qui n'ont cessé de se dégrader ces 10 dernières années, en particulier au collège, eh bien, il faut y mettre un terme, donc il faut enseigner autrement, d'une certaine façon, introduire de nouvelles pratiques pédagogiques. C'est l'objet de l'accompagnement personnalisé, où on va s'intéresser davantage à chaque élève dans sa singularité pour l'aider quand il est en retard, pour lui faire approfondir quand il est en avance. Mais en tout cas, arrêter de traiter tout le monde de la même façon, ça c'est l'accompagnement personnalisé. C'est l'objet de l'interdisciplinarité. L'interdisciplinarité qui n'a au fond qu'une vocation, qui est de mieux faire comprendre aux élèves le sens de ce qu'ils apprennent et de faire travailler davantage en équipe, aussi bien les enseignants, parce qu'on a besoin que les enseignants de collège travaillent mieux en équipe que les élèves, parce qu'on a besoin que les élèves apprennent davantage à coopérer, à travailler en groupe, c'est ce qui est attendu d'eux quand ils entrent sur le monde du travail.
La réforme se fera. Quoi qu'il arrive, la réforme se fera selon les modalités qui ont été publiées au mois de mai.
Un dernier mot, puisqu'on me dit parfois, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a dans cette réforme. Un dernier mot, cette réforme, c'est aussi celle de l'autonomie des établissements scolaires, à qui il est laissé davantage de marge de manœuvre. Et quand je dis des établissements, c'est des équipes pédagogiques, davantage de marge de manœuvre pour s'adapter aux besoins de leurs élèves.
Comment les enseignants
pourraient être opposés à cette plus grande marge de manœuvre?
Certains y sont opposés. Un mot de réponse à Jean-Luc Mélenchon qu'on a entendu tout à l'heure dans le journal de 8. Il vous a traité de menteuse à propos des effectifs enseignants. Combien de postes ont-ils réellement été créés dans l'éducation nationale depuis 2012?
Bon, d'abord, il faudrait que Jean-Luc Mélenchon grandisse et se grandisse. Parce que à ce stade, je me demande qui il n'a pas insulté entre les Allemands, les journalistes, les Bretons, les électeurs qui ne sont pas d'accord avec lui. Je pense que les Français sont lassés de ces diatribes. Et s'agissant des chiffres, dans l'éducation nationale, je suis formelle, ce sont 35 200 postes qui ont été créés dans l'éducation nationale, enseignement supérieur et enseignement agricole. Pour ce qui est de l'éducation nationale à proprement parler...
Des postes à temps plein ?
Ce sont des postes à temps plein, c'est des équivalents temps plein. Mais vous savez, quand Jean-Luc Mélenchon évoque les stagiaires, qu'on s'entende bien sur le sens des mots, de quoi parle-t-il ? Il parle des professeurs stagiaires, c'est-à-dire de ceux que nous formons, puisque nous avons décidé, et nous l'assumons, de remettre en route une formation initiale. Donc ce sont des jeunes gens qui sont en scolarité, en quelque sorte, mais qui ont vocation à enseigner l'année prochaine. Donc ce sont bien des postes créés dans l'éducation nationale. Et donc là... Où est le mensonge? C'est de laisser croire que ces stagiaires ont vocation à rester indéfiniment des stagiaires. Non, ils sont titularisés à la fin de leur formation. Et je crois que c'est une bonne chose que les enseignants soient désormais formés avant d'être titularisés.
Et les 60 000 seront atteints à la fin du quinquennat?
Et bien sûr, les 60 000 seront atteints à la fin du quinquennat.
Malgré la crise des vocations?
Mais il n'y a pas... Non, alors là aussi, je voudrais mettre un terme à une espèce de mythologie.
Vous avez des difficultés de recrutement pour certaines disciplines,
mathématiques,
par exemple.
Avez-vous en tête, par exemple, qu'à cette année scolaire, à cette rentrée, nous avons pourvu 100% des postes ouverts dans le premier degré maternelle, primaire. Nous avons pourvu 90% des postes ouverts dans le second degré. C'est vrai que certaines disciplines, je pense aux mathématiques par exemple, continuent à faire l'objet d'un certain nombre de difficultés, mais ça va mieux que l'année passée ou l'année précédente. Ce qui signifie bien que le retour en particulier de la formation initiale a rendu plus attractifs les métiers de l'enseignement. Et j'insiste sur ce point, il n'y a pas de crise de vocation. Il faut arrêter de porter ce message. J'étais il y a 2 jours avec les étudiants de l'ESPE, l'École supérieure du professorat de l'éducation de La Rochelle. Et j'ai constaté qu'au contraire, il y a un enthousiasme énorme chez ces jeunes gens qui s'engagent dans ces métiers, une confiance retrouvée parce qu'ils savent qu'ils seront désormais accompagnés et beaucoup de profils particulièrement intéressants de reconversion professionnelle, c'est-à-dire des gens qui ont fait d'autres métiers et qui viennent parce qu'ils savent qu'ils pourront être formés, désormais enseignés. Je crois qu'il faut accueillir tout ça avec enthousiasme.
Najat Vallaud-Belkacem, invitée de France Inter. On vous retrouve dans quelques minutes avec les questions des auditeurs qui sont déjà très nombreuses. Il est 8h33.